Bon, excusez-moi de mon retard, et puis aussi du fait que bon, je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer quelque chose de bien pensé et de spécial pour cette séance. Donc ce sera pour l'essentiel une sorte d'état des lieux, enfin tel que moi je peux le voir, en tout cas, autour de cette question du narrateur, et j'essayerai à la fin de la séance, mais de manière très 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 rapide, de voir en quel sens, lorsqu'on déplace la question de la narratologie vers la théorie de la fiction, et plus spécialement vers une conception, disons, simulationniste de la fiction, on peut peut-être aborder la question du narrateur de manière un peu moins dramatisée, je dirais, qu'on a tendance à l'aborder lorsqu'on se situe dans le cadre de la narratologie, ou alors dans le cadre des théories qui rejettent la narratologie classique, et qui disent qu'en réalité, pour un certain type de fiction, en tout cas, la notion de narrateur n'a aucune pertinence. Il me semble, mais je me trompe peut-être parce que je n'ai pas vraiment suivi tous les débats ces derniers temps, qu'aujourd'hui, la question de savoir si tout récit de fiction a un narrateur est moins discutée qu'elle ne l'a été autrefois. Si c'est le cas, si mon impression est juste, cela signifie certainement pas qu'il y ait consensus au sujet de cette question. C'est plutôt comme si, d'un commun accord, les deux camps avaient décidé que la question était réglée, soit dans un sens, soit dans l'autre, et que de toute façon, une discussion supplémentaire était une perte de temps pour chacun des deux. Du côté de la narratologie, il arrive qu'on pense que le simple fait de se poser la question risque de mettre en cause la discipline comme telle. La conviction est peut-être, je ne sais pas, est peut-être due au fait que, dans la mesure où la narratologie s'interroge sur les modalités de présentation de l'histoire racontée, et donc dans la mesure où ces catégories ont trait à la ventilation de cette information narrative, il semblerait que si on met en cause l'existence de l'instance, à qui doit se rapporter cette ventilation, cette présentation, l'ensemble de la catégorisation risquerait de s'effondrer. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Il me semble que s'interroger sur la pertinence universelle de la notion de narrateur n'est un danger pour la narratologie que si on a déjà décidé d'entrée de jeu d'exclure de la problématique à la fois l'auteur et le lecteur, et qu'on a admis comme principe méthodologique de base que l'explication du fonctionnement du récit de fiction ne saurait se faire que de façon intratextuelle, via un émetteur virtuel encodé dans le texte lui-même. À l'inverse, il me semble que du côté de ceux qui mettent en question la pertinence de la notion de narrateur, du moins pour certains types de fiction, la thèse quelque peu métaphysique selon laquelle un certain type de récit se raconterait lui-même, enfin comme Ben Lenis l'avait dit à un moment donné, elle aussi ne s'impose que si là encore on a d'entrée de jeu exclu la figure de l'auteur comme possible point d'origine de cette narration. Je ne veux pas suggérer par là que si on réintroduit l'auteur et la causalité intentionnelle affective qui donne naissance au récit, on a résolu tous les problèmes. Peut-être même qu'il y a une difficulté nouvelle qui s'introduit, parce que si on réintroduit la notion d'auteur comme origine de l'histoire racontée, on risque, ou on semblerait risquer, de perdre la possibilité de distinguer le récit de fiction du récit factuel, puisque en général, on oppose ces deux types de récits ou ces deux situations, en disant que dans la situation du récit factuel, il y a identité entre l'auteur et le narrateur, et que dans le récit de fiction, il y a distinction entre auteur et narrateur. Donc, réintroduire la notion d'auteur risquerait, et ramener ou rapporter le récit de fiction directement à l'auteur, risquerait de faire perdre le gain de cette distinction entre les deux types de récits. Si j'ai le temps, je vais y revenir peut-être à la fin de mon exposé. Donc, pour en rester à la question de départ, il me semble que tant qu'on se situe dans un cadre méthodologique dans lequel, donc, comme je l'ai dit, on s'interdit d'entrée de jeu tout recours à l'auteur réel comme cause intentionnelle des traits narratifs et au lecteur réel comme lieu de reconstruction de l'univers créé, alors l'opposition entre les deux hypothèses est celle de deux alternatives qui s'excluent mutuellement. Si seul un narrateur intratextuel peut être à l'origine de cette ventilation, de cette répartition de l'information narrative, alors ou bien tout texte doit avoir un narrateur, où il y a des textes qui effectivement se racontent eux-mêmes et qui du même coup se situent en marge de la communication linguistique comme telle. C'est-à-dire qu'on fait passer la question des éventuels unspeakable sentences vers un niveau beaucoup plus général qui est celle d'une sorte d'unspeakable text. Un point peut-être plus important est que j'ai l'impression que les deux positions, si on les soutient de manière absolue, risquent d'aboutir à des paradoxes. Dans le cas du récit du narrateur, c'est le paradoxe qui pour moi est en tout cas un paradoxe, l'idée d'un récit se racontant lui-même. Dans le cas de l'hypothèse de l'universalité du narrateur, on risque de se retrouver dans certaines situations avec le paradoxe de l'existence d'un narrateur sans qu'il y ait une histoire à raconter, puisque dans la fiction, on admet en général, je crois que c'est Philippe qui l'avait rappelé lors d'une séance, qu'il n'y a pas d'histoire qui précède le récit. Évidemment, c'est un des traits qui distingue la fiction du récit factuel, c'est que le récit factuel, en principe, a une histoire en amont, et on ne peut pas dire que dans le récit de fiction, il y a une histoire en amont, mais plutôt que l'histoire est ce qui est produit par le récit. C'est-à-dire une chose que Genette lui-même dit dans un de ses textes, je ne me rappelle plus lequel, mais effectivement, où l'ordre s'inverse lorsqu'on passe du factuel au fictif. Donc, on risque de se retrouver là aussi avec un paradoxe. Avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être rappeler que les formulations classiques des deux options, celle d'Hamburger d'un côté, celle de Genette ou de Stenzel, par exemple, de l'autre, sont en réalité beaucoup plus nuancées et complexes que cette opposition un peu simpliste que je viens d'esquisser. Par exemple, si Käthe Hamburger rejette la notion de narrateur, c'est tout simplement parce qu'elle rapporte la fonction narrative à l'auteur. Elle n'expulse pas l'auteur. Elle ne se situe pas dans ce paradigme selon lequel bien l'auteur réel n'a plus rien à voir lorsqu'on s'interroge sur la fiction. Au contraire, pour elle, il y a l'auteur et puis la fiction qu'il produit. Donc elle se débarrasse d'une certaine manière de la figure du narrateur, mais cela ne lui coûte pas très cher puisqu'elle a la notion d'auteur qui remplit sa fonction traditionnelle. Elle le dit d'ailleurs d'une manière très, 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 très ramassée en disant que dans la fiction, il n'y a que l'auteur et ses narrations. Donc il y a bien l'auteur. Le point important est que cela ne signifie pas que l'auteur prend chez elle la place fonctionnelle du narrateur de la narratologie. Du moins si on définit le narrateur comme énonciateur supposé du récit de fiction. Pour Hamburger, en effet, le récit de fiction hétérodiégétique n'est pas une énonciation, donc il n'y a pas non plus d'énonciateur. Mais c'est une mimésis de personnage, une imitation de personnage présenté de l'intérieur, à partir de ce qu'elle appelle des jeux origines fictifs, mais ça revient en fait à dire une présentation de l'intérieur des personnages, qui sont le point de perspective à partir duquel l'univers est créé. Donc il n'y a pas pour elle d'acte narratif à proprement parler, mais ce qu'elle appelle une fonction narrative, c'est-à-dire un ensemble de techniques de présentation utilisées par l'auteur pour produire des personnages et leur vie intérieure. Donc d'une certaine manière, on ne peut pas interpréter sa position comme si, impliquant l'idée que le récit de fiction hétérodiégétique est un récit qui se raconte lui-même. Au sens strict du terme, pour Hamburger, la fiction hétérodiégétique n'est pas un récit, n'est pas une narration en tout cas. Du côté de la narratologie classique, je pense que la situation est tout aussi nuancée. Genette, par exemple, est parfaitement conscient du caractère épistémiquement instable des notions d'histoire et de narrateur dans le cadre de la fiction. Notamment dans la préface à la logique des genres littéraires, il a rappelé que pour des raisons méthodologiques, le narrateur fait. Le narrateur, eh bien, ça commence bien. Le narratologue, pardon, fait. Comme si quelque chose était arrivé afin de pouvoir étudier les relations entre ce qui est censé arriver et la manière dont on le représente, mais que, d'après lui, la position, alors je cite, ontologiquement légitime, je ferme les guillemets, est bien celle de Käthe Hamburger, étant donné, je cite encore, qu'il n'est rien arrivé du tout et qu'il n'y a devant nous ni histoire ni narrateur. Donc, il était bien conscient que, d'une certaine manière, introduire la figure du narrateur dans le cas du récit des fictions impliquait une sorte d'abus de langage par rapport à l'idée du narrateur d'un récit factuel, où le narrateur est tout simplement l'énonciateur du récit. Simplement, il défendait l'idée, il la défend toujours, je pense, que pour des raisons méthodologiques, on peut postuler cette instance et même lui donner un nom de narrateur parce que ça permet de ramener l'ensemble de l'information ou de la ventilation de l'information narrative à un seul pôle. On peut évidemment se demander si ce point d'origine ne pourrait pas tout aussi bien être simplement l'auteur, puisque c'est l'auteur qui crée évidemment ces choses-là. Bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a deux types de fiction. Il y a la fiction à la première personne et la fiction hétérodiégétique. Et la question du narrateur ne se pose pas de la même manière, ni l'éventuelle solution qui consiste à s'en passer. Peut-être aussi que ce qui le distingue d'Hamburger, c'est qu'en réalité, Hamburger, ce qu'elle fait, c'est construire un type idéal. Je crois qu'elle construit le type idéal de ce que serait la fiction hétérodiégétique. Enfin, elle n'appellerait pas hétérodiégétique, mais que, en narratologie, on appelle hétérodiégétique. Alors que Genette, sans doute, est plus conscient de la diversité des fictions hétérodiégétiques empiriquement existantes. C'est-à-dire que il tient plus compte, et j'y reviendrai tout à l'heure, il tient plus compte de l'éventualité, car après tout, il n'est pas sûr qu'une fiction, qu'elle soit à la troisième personne ou à la première personne, soit du point de vue de la structure intentionnelle ou de la structure aussi dont elle est expérimentée, quelque chose qui est fait d'un bloc. Il se pourrait très très bien qu'il y ait des blocs fonctionnant différemment qui interagissent et que le récepteur ou le lecteur puisse changer selon les moments entre une attitude ou un type d'immersion mimétique et un autre. Stanzl, de son côté, était aussi d'avis que les deux hypothèses, celle selon laquelle la fiction hétérodiégétique n'est pas un récit au sens fonctionnel du terme, et celle selon laquelle elle est un récit, était pareillement indispensable. D'après lui, la thèse d'Hamburger était une thèse qui portait sur la structure profonde de la fiction, en fait, alors que celle d'un narratologie portait, d'après lui, sur la structure de surface de la présentation des phrases. Alors, je ne sais pas en quel sens l'utilisation de structures de surface et de structures profondes dépassait tout simplement la référence à peu près indispensable à une certaine époque à l'idée qu'on peut distinguer dans chaque type d'activité discursive entre ce qui en a le relève d'une structure de surface et ce qui relève d'une structure d'une structure profonde. Mais il y a peut-être, peut-être non pas dans l'explication, mais dans l'idée que le récit des fictions doit être compris selon deux logiques, dont une serait une logique du récit et l'autre une logique de la fiction, et qu'il n'y a pas de raison que ces deux logiques soient complètement réductibles l'une à l'autre. Donc il se pourrait que le récit des fictions soit à la rencontre pas de deux logiques, de deux réalités. Donc une réalité, c'est le récit, il y a un récit. L'autre réalité, c'est qu'il y a des fictions, et il se trouve qu'on va se servir du récit pour élaborer une fiction. Donc, il n'est pas sûr que l'expression récit de fiction désigne une unité qui est une source unique. Il se pourrait qu'il y ait deux sources qui se rejoignent ou qui se croisent. Et qu'une partie des spécificités, notamment en termes linguistiques, donc les indices de fictionnalité dont parle Hamburger, soient dues au fait qu'en réalité, il y a là deux types de faits mentaux linguistiques, un à l'autre plus intentionnel ou pragmatique, qui se croisent. Je ne sais pas, je vais essayer, si j'ai le temps, si je n'oublie pas jusqu'alors, d'y revenir un peu à la fin. Donc, en tout cas, il me semble que sur ce point, et peut-être sur d'autres encore, la narratologie dite classique a encore des choses à nous apprendre aux praticiens actuels de l'analyse des relations entre récit et fiction. Ce que je retire de cette présentation un peu générale, c'est qu'il me semble que la question du narrateur est en fait une des formes de la question plus générale des relations entre récit et fiction. Et relation qui, si la suggestion là que j'ai faite n'est pas entièrement fausse, est sans doute plus complexe que ne laisse sous-entendre la notion, semble-t-il, toute simple de récit fictionnel, où les deux sont, où fictionnel est tout simplement une spécification de récit. Je tendrais plutôt au contraire à penser que D'une part, la notion de fiction est indépendante de celle de récit. Je crois que ça, c'est une hypothèse qu'on peut relativement facilement accepter. Mais d'autre part aussi, que pour comprendre le récit fictionnel, il est peut-être préférable de partir de la notion de fiction plutôt que de celle de récit. Et finalement, c'est une position ou un point de départ qui se rapproche beaucoup du point de départ d'Hamburger, parce qu'elle était partie de là. Elle était partie de l'idée que pour comprendre ce qu'on appelle le récit de fiction, en tout cas hétérodiégétique, il faut plutôt partir de la problématique de la fiction, ou ce qu'elle appelait la mimésis, mais c'est la problématique de la fiction, plutôt que de la question du récit. Et qu'on comprenait les spécificités de ce type de présentation linguistique qu'est la fiction hétérodiégétique, que si on partait des problématiques de la fiction. Donc, je dirais que l'importance de la question du narrateur réside dans le fait qu'elle nous montre en quelque sorte les limites d'une étude de la littérature fictionnelle qui reste confinée à un niveau purement textuel. Ou pour le dire autrement, le fait que la question du narrateur aboutisse si facilement à des paradoxes lorsqu'on reste confiné au niveau textuel montre peut-être que certains problèmes centraux de la littérature, ou du moins de la littérature de fiction, ne peuvent pas être abordés de manière satisfaisante à ce niveau-là. Mais qu'il faut bien qu'on prenne en compte au niveau plus basique, qui sont les êtres humains, en principe tout ce qu'il y a de plus réel, qui produisent et qui lisent les œuvres de fiction. Il se pourrait que si le texte de fiction a les traits qu'il a, c'est parce qu'il est mis, il est construit ou est reçu par des êtres humains qui sont ce qu'ils sont, et notamment termes de fonctionnement cognitif. Ce qui signifierait que pour sortir de l'impasse de la question du narrateur, il faudrait peut-être sortir aussi de l'idée que la cause explicative ultime des œuvres ne peut être que le langage. Peut-être que le langage lui-même est un des aspects d'une machinerie ou d'une dotation cognitive humaine plus complexe dans laquelle d'autres facteurs interviennent aussi. C'est pour cela que dans mon titre, j'ai fait référence à la question de la simulation mentale. Il me semble que cette analyse des processus de simulation mentale peut nous permettre de reprendre la question du fonctionnement de la mimésis fictionnelle ou de la fiction, et que ceci, à son tour, nous aide sans doute à comprendre des faits textuels, notamment les spécificités linguistiques de certains types de fiction, la fiction hétérodiégétique, qui autrement reste assez mystérieuse. Donc c'est un très vaste programme et je ne m'y engagerai pas aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la question complexe et très technique des théories de la simulation mentale. Je vous demanderai à en dire quelques mots très rapides à la fin de mon exposé. Pour l'essentiel, en fait, ce sera une sorte d'état des lieux, du moins quelques mois. Je peux le comprendre à partir de mes propres travaux. J'essaierai de présenter les positions en conflit, les faits sur lesquels ils portent, et ce qui, me semble-t-il, est l'enjeu réel du débat entre les deux positions. Et mes remarques vont se subdiviser en trois parties. Je commencerai par quelques réflexions générales à propos de la différence entre le problème technique du narrateur et la question plus générale du récit, au sens très vague, c'est-à-dire au sens où un récit est le fait, comme on dit, de raconter une histoire. Et pour essayer de clarifier un peu cette notion très couramment utilisée et très vague de raconter une histoire, je m'étendrai plutôt sur le cas du cinéma, puisqu'on dit que les films racontent une histoire, mais qu'en même temps, manifestement, dans le cinéma, on a des problèmes lorsqu'on veut chercher des narrateurs. Et qu'en général, dans le cas du cinéma, on accepte plus facilement qu'on ait des problèmes à situer un narrateur qu'on l'accepte dans le cas de la littérature. Dans une deuxième partie, je rappellerai brièvement les positions classiques de la narratologie concernant la question du narrateur, avant d'exposer la thèse antinarrativiste, si on veut, dans la forme en fait qu'elle prend chez Keith Hamburger. Et puis dans la troisième et dernière partie, je dirai quelques mots de la problématique de la simulation mentale, en montrant en quel sens cette problématique est finalement assez proche d'une théorie de la mimésis, et notamment assez proche de cette théorie de la mimésis telle que Hamburger l'a développée, et que notamment certains des faits qu'elle a mis en évidence, donc ces indices, peuvent peut-être se comprendre si on part non pas simplement d'une théorie de la simulation mentale, mais de la double entrée pour le récit de fiction qui, d'un côté, serait la théorie de la simulation mentale et de l'autre côté, la théorie de la fainéantise. Et les dysfonctionnements apparents qu'on constate, dont ces indices dont je parlerai, sont peut-être tout simplement dus au fait eh bien, que ces indices sont les lieux où les deux logiques, où les deux principes se croisent et donc où ils produisent des effets qui sont visibles et qui se traduisent par des faits linguistiquement réalisés. Donc je pars de cette question de raconter une histoire. C'est des remarques préliminaires. Pour qu'on n'oublie pas que ce qui est en jeu dans tous ces débats, c'est quelque chose de très très particulier. Ce n'est pas la notion de narrateur d'une manière très très vague. C'est bien la nécessité ou non de postuler une telle entité ou instance dans un type de récit verbal très particulier, qui est le récit des fictions à la troisième personne. Ça me concerne. Les débats pour l'essentiel portaient sur ce cas-là. Il y a eu d'autres débats pour le narrateur, mais qui portaient sur sa relation avec l'auteur, tout ce qu'on veut, mais qui ne portaient pas sur l'idée est-ce qu'on a besoin d'une telle figure pour comprendre comment fonctionne un tel récit. Donc c'est vraiment un type de récit verbal très particulier. Et si je le rappelle, c'est parce que, évidemment, nous employons les termes de récit, de narration, dans des sens beaucoup plus vagues, où ils n'impliquent pas ce sens technique de la présence d'un narrateur. En fait, dans leur emploi le plus commun, les termes en question, dans tout ce qui se réfère à ce champ sémantique, disons, ces termes font partie de ceux que nous mobilisons chaque fois que nous nous trouvons face à quelque chose qui relève de ce que moi j'ai dit, appelé raconter une histoire. Dans le sens courant, par histoire, nous entendons la présentation, en fait, par des moyens sémiotiques quelconques d'une suite événementielle, que cette suite soit factuelle ou qu'elle soit fictionnelle. On dit ainsi non seulement qu'une personne raconte une histoire, qu'un historien raconte l'histoire d'Angleterre, que Joyce raconte l'histoire de Stephen Dedalus, que Truffaut raconte l'histoire d'Antoine Doinel, voire que Richard Strauss raconte l'histoire de Don Quichotte, mais aussi que le déclin de l'Empire romain raconte l'histoire de Rome, que la montagne magique raconte l'histoire de Hans Castorp, que le diable et le bon Dieu racontent l'histoire de Goetz et Heinrich et d'autres personnages, etc. Lorsqu'on emploie l'expression en l'appliquant au résultat de l'action de raconter aux œuvres, c'est sans doute une façon détournée pour dire que l'écrivain, l'auteur dramatique, le scénariste, le metteur en scène, etc., raconte cette histoire qui est présentée par l'œuvre en question. En tout cas, lorsque raconter signifie créer une représentation ou une présentation d'une suite événementielle, si on se limite à ce sens très général, alors toute histoire, qu'elle soit factuelle ou fictionnelle, et bien entendu racontée, qu'elle soit présentée par un récit verbal, par une présentification scénique ou par un enregistrement filmique. Et toute histoire a un narrateur en ce sens très vague, au sens où il y a quelqu'un qui nous la présente, qui nous la donne à entendre, à voir, etc. Dans le champ de l'oral, ce narrateur est l'énonciateur au sens le plus banal et le plus direct du terme. Lorsque nous nous situons dans le champ de l'écrit ou dans celui des médias non-verbaux, nous avons d'autres termes. Moins techniques comme l'auteur, le créateur, etc. Mais je pense que peu importe les noms, dans tous les cas, l'histoire est racontée en ce sens qui n'engage à rien, par la personne réelle qui soit la rapporte lorsqu'il s'agit d'une histoire factuelle, soit la présente ou la crée lorsqu'il s'agit d'une histoire inventée. Et en ce sens-là, toute histoire a une origine causale et une source narrative tout à fait réelle et d'une certaine manière triviale. Ce niveau de base est en général considéré comme n'étant pas pertinent pour l'analyse narrative. Et l'idée sous-jacente est que le point de rattachement ultime de l'analyse narrative ne peut être que le narrateur tel qu'il peut être reconstruit à partir du texte. La question de ses rapports avec l'auteur réel restant en suspens ou alors étant déclarée sans pertinence. D'où la situation un peu paradoxale de certaines analyses narratives où nous ne faisons intervenir l'auteur que lorsque nous nous trouvons face à des dysfonctionnements du récit, à des défauts, comme si référer l'histoire à son auteur équivalait à sortir de la sphère proprement narrative et opérale pour celle des contingences qui empêchent cette sphère de fonctionner de manière autonome. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un principe qui est un fondement très profond. Je pense au contraire qu'en un sens empiriquement très robuste, toute histoire est racontée par une histoire réelle et les traits que cette histoire présente, y compris ceux qui relèvent de la ventilation de l'information narrative, ont leur cause réelle dans l'auteur ou le créateur. En ce sens, qui me semble parfaitement légitime du point de vue de l'analyse littéraire et même de l'analyse narrative, de dire que lorsque je lis Le Château, je lis un récit qui est raconté par Franz Kafka, qui se trouve être en même temps la personne qui a inventé ce récit. D'ailleurs, lorsqu'on sort du champ littéraire, une telle attitude est en général considérée comme tout à fait acceptable. En peinture, on admet en général que c'est le peintre qui peint la scène. De même, au cinéma, à part quelques narratologues, on admet en général que c'est bien les cinéastes ou l'équipe cinématographique qui racontent l'histoire. Et lorsqu'on s'interroge sur son organisation, c'est à ces personnes réelles qu'on la réfère d'abord. Cela ne résout évidemment pas la question du narrateur au sens technique du terme, et j'y reviendrai tout à l'heure. Simplement, cela permet de voir que on peut employer les notions d'histoire, la notion très vague de raconter, la notion même de récit, sans qu'on doive postuler une figure de narrateur qui soit quelque chose, soit inclus dans le texte, soit projeté comme figure virtuelle par l'œuvre, si c'est pas un texte. Donc il faut distinguer ce niveau du problème de la question si toute histoire a un narrateur au sens d'une instance spécifique à laquelle le récepteur rapporte la ventilation, enfin, ou la variation de l'information qui est mise en œuvre par l'auteur. Et je pense qu'il n'y a aucun lien nécessaire entre ces deux questions. Que toute histoire doit son existence au fait que quelqu'un de réel, existant, l'a raconté, ne signifie nullement que toute histoire doit avoir un narrateur au sens d'une interface qui s'interpose entre l'auteur ou le créateur et celui qui lit ou regarde l'œuvre en question. D'abord parce qu'il existe des supports sémiotiques pour lesquels le fait qu'une histoire soit racontée par son auteur ne me semble pas impliquer qu'elle possède un narrateur. Dans une pièce de théâtre, il n'y a en règle générale pas de narrateur, bien que la pièce raconte une histoire et que cette histoire soit racontée au sens premier du terme par l'auteur de la pièce. Racine raconte une histoire, Bérénice raconte une histoire, mais Bérénice n'est pas racontée par un narrateur. Et il n'y a pas de figure narratoriale. Il peut y avoir des narrateurs dans le théâtre, par exemple dans le théâtre épique de Brecht, mais ce n'est pas un trait définitoire de la représentation théâtrale ni de la littérature dramaturgique. Et il me semble que la même chose vaut pour le cinéma. Et je m'étendrai un peu plus sur le cas du cinéma, parce que bien que le théâtre lui aussi soit souvent analysé en termes avec les concepts narratologiques et d'ailleurs de manière très très fructueuse, le cinéma aussi, bien entendu, a mobilisé peut-être de manière plus importante en France que le théâtre, les analyses narratologiques. Et en général, on admet, et je pense qu'on a raison, que ces analyses ont été très très fructueuses pour comprendre ou pour rendre compte de la structuration et de l'organisation temporelle et spatiale des films, ou des univers fictionnels réalisés filmiquement. Simplement, cet usage donc des catégories narratologiques s'est traduit par l'idée que si on pouvait se servir de ces catégories, alors il fallait aussi qu'il y ait un narrateur. Donc, il fallait qu'on trouve dans la fiction cinématographique un équivalent au narrateur du récit verbal, ou en tout cas du récit verbal factuel. Donc, l'idée était qu'il fallait aussi introduire dans l'analyse cinématographique une notion de narrateur comme origine supposée de la façon dont l'information visuelle auditive était modulée selon les scènes, comment le découpage était organisé, etc. Donc en fait, on pensait que si on pouvait appliquer les catégories narratologiques, c'était parce que le cinéma était organisé selon les mêmes modalités que ceux du récit verbal. Et cela explique peut-être pourquoi, à une époque donnée, on parlait beaucoup d'énonciation filmique, d'énonciateur du film, de phrases cinématographiques ou de la force illocutoire des propositions filmiques, etc. J'avais cité, je crois, que dans Pourquoi la fiction, Roger Audin, par exemple, qui est un des narratologues qui a beaucoup travaillé sur le cinéma, s'est beaucoup servi des notions de d'énonciation, notamment en distinguant entre. En disant que la production d'une œuvre cinématographique constitue un acte illocutoire authentique qui serait référable à l'énonciateur de l'œuvre qui doit être, d'après lui, distingué de l'énonciateur de la fiction, ce dernier étant l'énonciateur des énoncés cinématographiques, je suppose. Alors, je ne sais pas si on gagne grand-chose à qualifier d'acte illocutoire la création d'une œuvre filmique, étant donné que qu'un film ne possède pas une structure propositionnelle et que sa réception mobilise d'autres circuits d'intégration que l'intégration en termes d'interprétation de structures propositionnelles. Je concède évidemment que ceux qui défendent ce type d'analyse ne soutiennent pas que la fiction cinématographique est de nature linguistique, mais uniquement que son fonctionnement est homologue à celui du discours, ce qui justifierait l'usage transposé des catégories linguistiques. Je doute de l'existence d'une telle homologie, et le fait, pour moi, décisif qui peut faire douter de cette homologie a été mis en évidence par Christian Metz, donc un des gens qui ont travaillé dans le domaine de l'analyse narrative du récit. C'est ce que lui, il appelait les transferts perceptifs, c'est-à-dire ce que moi j'appellerais des leurres pré-attentionnelles, c'est-à-dire des moments dans la réception de l'œuvre où, pendant une fraction de seconde, notre vision en général, mais parfois aussi notre audition, est induite en leurre et réagit à et notre corps réagit de manière motrice, pardon, comme s'il y avait un stimulus réel en face de nous et non pas un stimulus qui se trouve tout simplement projeté sur une surface plane. Donc, Christian Metz appelait ça, d'une belle expression d'ailleurs, des transferts perceptifs. Or, si un film peut induire des transferts perceptifs, cela me semble être une preuve expérimentale du fait qu'il opère, en tout cas pour partie, au niveau de la perception et non pas au niveau propositionnel, puisque un leurre au niveau propositionnel se traduirait plutôt par des fausses croyances. Or, le leurre pré-attentionnel n'est pas une croyance, c'est tout simplement la traduction par une boucle de réaction motrice courte en une réaction qui fait qu'on retire la tête à un moment, où on se baisse, ou on fait comme ça, quand c'est des bruits qui nous font réagir. Donc, c'est des réactions qui ont lieu avant même qu'une quelconque intégration au niveau d'une croyance puisse se faire. Et d'ailleurs, à partir du moment où il y a un contrôle conscient, où le contrôle conscient a eu le temps de réagir, bien entendu, on se rend compte qu'on est face à une image et non pas face à la réalité. Donc, c'est en fait deux niveaux cognitifs différents qui ont réagi. Le premier, qui est d'ailleurs dont la fonction est d'ailleurs de réagir de cette façon-là, parce que quand il y a un danger, il faut qu'on puisse réagir de manière extrêmement rapide avant que la conscience ait eu le temps de discriminer entre les différents types de stimulus. Et dans ce cas, il vaut mieux être. Le principe de précaution fait que le corps réagit avant de laisser le temps à la conscience de réfléchir, parce que sinon, dans certaines situations, le temps de la réflexion ne viendrait jamais. Donc, cela montre en tout cas que le cinéma, et je pense qu'on peut extrapoler à partir de ce cas un peu extrême, le cinéma agit essentiellement au niveau de la perception, beaucoup plus qu'au niveau propositionnel. En tout cas, si la réception mettait en œuvre essentiellement des compétences propositionnelles, les leurres pré-attentionnelles, comme je l'ai dit, qu'ils seraient susceptibles de produire, seraient d'un type fort différent. Donc, il me semble que traiter le dispositif cinématographique comme s'il avait une organisation syntagmatique à l'instar de la langue, c'est méconnaître le fait fondamental que nous accédons à l'univers filmique à travers une immersion qui relève de la perception. Et en sorte que si on veut le comprendre, c'est de là qu'il faut partir. Je dis bien que c'est là qu'il faut partir, mais je ne pense pas qu'il faille s'y maintenir. Mais je crois qu'il faut partir de ce niveau de base, et puis après de reconstruire à partir de là les niveaux cognitifs plus complexes qui donnent évidemment un sens à ce que nous appelons voir un film, qui implique des niveaux cognitifs beaucoup plus complexes que ce niveau de l'immersion perceptive. En tout cas, il me semble que l'idée sur laquelle il faudrait postuler un narrateur relève de cette incompréhension. Dans la mesure où le narrateur n'est que le nom technique qu'on donne au supposé énonciateur qui serait impliqué ou présupposé par la structuration de la quasi-linguistique de la séquence filmique. Or, il me semble que la pertinence réelle d'une partie des distinctions élaborées par la narratologie, en l'absence avérée de toute nécessité de postuler une instance narratoriale, prouve que les catégories narratologiques restent opératoires, même si on ne les rapporte pas à une figure de narrateur. Mais lorsqu'on les interprète directement en termes de techniques qui sont mises en œuvre par l'auteur, et donc ne présuppose pas par nécessité absolue la présence permanente d'une figure de narrateur. Il me semble notamment que la plupart des distinctions qui ont été élaborées par Genette, qu'elles concernent le temps, l'ordre, la vitesse, la fréquence, ou le mode et la voix, restent opératoires si on les explique dans un cadre hamburgérien, donc si on les rapporte à l'auteur plutôt qu'en postulant un narrateur. Elles sont d'ailleurs beaucoup utilisées dans l'analyse du discours dramatique, sans qu'on postule dans ce cas un narrateur. Donc cette fécondité existe aussi dans le cas du cinéma, n'implique pas en elle-même qu'on doive postuler un narrateur. Donc la question de savoir s'il y a un narrateur ou non au cinéma, je pense, doit trouver une réponse qui est indépendante de la question de savoir si un certain nombre des catégories narratologiques sont applicables ou non au cas du cinéma. Mon hypothèse serait plutôt que si ces catégories sont applicables au cinéma, cela n'est pas dû au fait que la structure événementielle du film est un transcodage de la structure narrative d'un récit verbal, mais au fait que la fiction cinématographique, comme la fiction verbale, organise les événements en partant d'un fondement commun, qui est celui de la représentation mentale, de la causalité événementielle, de la logique actantielle des comportements, des attributions d'intentionnalité à autrui, etc. Ceci est peut-être cohérent avec le fait que les catégories de la narratologie qui sont les plus adaptées à la fiction cinématographique sont celles qui relèvent soit de la relation entre l'histoire et le récit, soit celles qui concernent les relations temporelles entre l'acte narratif et l'histoire. Toutes ces distinctions concernent de très près la nature perspectivique de nos modélisations mentales du réel, puisque ces modélisations sont toujours à partir d'un point de vue, qu'elles sont toujours sélectives ou aspectuelles, qu'elles sont toujours temporellement organisées par rapport à un temps zéro qui est celui de l'acte modélisateur lui-même. En disant cela, je ne vais évidemment pas soutenir la thèse, qui serait passablement absurde, qu'il ne peut pas y avoir de figure de narrateur dans le cinéma. On a évidemment le narrateur off qui intervient dans beaucoup de films, mais il ne s'agit pas d'une figure nécessaire. Et par ailleurs, lorsqu'on compare le narrateur off d'un film avec, par exemple, le narrateur rétrospectif d'un récit verbal à la première personne, on voit qu'il sous-détermine beaucoup plus fortement l'organisation de l'information narrative que ne le fait ce narrateur dans le récit verbal. Pour une raison toute simple, c'est qu'évidemment, l'information passe dans le film essentiellement une grande partie par le canal visuel et que canal visuel n'est pas réductible à ce qui en est visible au niveau du commentaire off. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi le commentaire off est très très souvent, d'ailleurs presque en général, est rétrospectif. N'est pas son moment d'énonciation ne correspond pas au moment où ce qu'on voit, sauf quelques exceptions, ce qu'on voit au cinéma, et a souvent a une fonction de commentaire, c'est-à-dire une sorte de commentaire de quelqu'un qui commente en fait ce qui s'est passé autrefois et beaucoup plus qu'une organisation du récit. Il faut distinguer d'ailleurs, mais je pense que tout le monde le fait, ça, bon, je rappelle en passant, cette question du narrateur, de la question de la subjectivation du champ visuel. Il y a évidemment dans beaucoup de films des subjectivations du champ visuel, en ce sens où ce que nous voyons est censé être ce que voit un personnage du film. Et on peut concevoir tout à fait facilement, peut-être que ça existe, sans doute ça doit exister un film qui est entièrement présenté comme vision subjective d'un personnage. Mais précisément, à une histoire à laquelle nous avons accès à travers l'expérience perceptive qu'on a un des personnages, donc quand c'est un accès filmique qui est un accès perceptif, n'institue nullement ce personnage en narrateur, mais en sujet percevant. Il vit l'histoire et nous vivons l'histoire à travers lui. Il ne la raconte pas. Nous ne rapportons pas à lui comme à quelqu'un qui raconte une histoire, mais c'est lui, ou plutôt c'est nous qui vivons l'histoire en voyant l'histoire à travers ce qui est supposé être sa vision. Mais cette subjectivation est un cas très particulier et c'est intéressant parce que en règle générale, l'immersion dans un univers filmique n'est pas une immersion dans la perception en tant qu'acte, mais tout simplement, c'est l'immersion dans l'expérience visuelle qui correspond à cet acte. Curry et Ravenscroft, Curry était venu l'année dernière, bon, il n'y avait pas grand monde, mais enfin, il était venu et donc il avait publié un livre avec Ravenscroft qui s'appelle Recreative Minds, qui parle justement de la simulation, de la narration, du cinéma, etc. Il insiste sur un point qui me paraît, enfin les deux auteurs insistent sur un point qui me paraît important, à savoir que imaginer voir quelque chose n'implique pas, ni imaginer, pardon, qu'on a une expérience visuelle, ni s'imaginer dans la peau d'un autre qui a une expérience visuelle. En règle générale, imaginer Voir quelque chose signifie tout simplement imaginer l'effet visualisé. C'est-à-dire que, alors, pour en rendre compte de manière plus claire, il propose de distinguer entre le caractère d'une simulation et son contenu. Une simulation peut être une simulation visuelle. Dans ce cas, sa simulation a un caractère visuel. Ce caractère doit être distingué du contenu. Le contenu peut être tout simplement ce qui est présenté à travers ce canal-là, en l'occurrence, dans ce canal-ci, un canal visuel. C'est d'ailleurs cela qui explique pourquoi, dans le cinéma, nous pouvons faire la différence et pourquoi elle est intéressante entre une caméra subjective, donc une caméra où nous vivons non seulement l'immersion dans un monde présenté visuellement, mais en même temps l'immersion dans l'expérience perceptive du sujet percevant ce monde. Donc ces deux postures d'immersion ou d'intégration dans l'univers filmique qui ne sont pas les mêmes, bon, nous pouvons facilement changer parce que pour des raisons que sans doute qu'il faudrait qui ont peut-être été étudiées par les psychologues, mais c'est un fait que nous arrivons facilement à l'intérieur même d'un film à changer rapidement d'une posture à l'autre et à de multiples reprises. Et c'est rare que nous nous trompions, ce qui est sans doute encore plus étonnant. Enfin, c'est sans doute pas plus étonnant que le fait que les enfants, dans leur jeu, soient capables de faire les mêmes choses dans des jeux arc-en-ciel, c'est-à-dire de changer très facilement de posture d'immersion, de passer de l'une à l'autre, et puis de sans qu'il y ait, sauf dans des situations assez rares, de dysfonctionnement dans leurs interactions. Donc, je pense qu'il est important de distinguer entre le caractère perceptif, par exemple, quand c'est une perception, et le contenu. Si j'ai l'image visuelle d'une montagne, cette expérience a un caractère perceptif, ou quasi perceptif si c'est une imagination, mais le contenu de mon imagination n'est pas nécessairement cet acte perceptif. C'est en général tout banalement la montagne. De même, dans le cas des mimèmes cinématographiques, le contenu, ça peut tout simplement être ce qui se passe sur l'écran. En règle générale, c'est d'ailleurs cela. Plutôt que l'action qui consiste à nous faire voir ce qui est sur l'écran. Ce qui n'enlève rien au fait qu'en réalité, nous ne voyons ce qui est sur l'écran que parce qu'il y a une action qui nous fait voir ce qui est sur l'écran. Je suis en train de me paumer un peu. Oui, bon. Je voulais distinguer en fait ces deux aspects. Le fait qu'il s'agit d'une expérience qui correspond à des actes quasi perceptifs, et le fait qu'on a tout simplement une visualisation des choses qui sont montrées. Ce qui est important, je crois, c'est que les deux agissent sur nous. C'est-à-dire les modalités de la manière dont les choses sont présentées, donc la façon dont, si c'était une perception, la perception, l'expérience perceptuelle serait organisée. Cela agit évidemment sur l'univers qui est présenté, sur la manière dont nous vivons cet univers. Donc, il y a des effets sur l'expérience immersive. De même, cela ne veut pas dire que ces techniques ne peuvent pas devenir le support de signification intentionnelle, à travers lesquelles les cinéastes peuvent transmettre des sortes de méta-messages qui font eux aussi, bien entendu, partie du film conçu comme œuvre. Ça a été analysé, tout ce qui est analysé dans les. Alors, non, soit dans des analyses narratologiques du cinéma, soit dans des analyses plus générales, comme par exemple la caméra à hauteur de sol dans les films d'Ozu, enfin, les films japonais d'Ozu. Cela a évidemment des effets au niveau de la vision du film, donc au niveau aussi de la construction de l'univers filmique, et ça a certainement aussi. Ou ça peut être, ou ça a été pour Ozu, le support d'un méta-message auctorial, de nature, je ne sais pas, éthique ou autre, concernant le rapport, par exemple, entre le cinéaste et ses personnages. De même que l'usage massif du zoom peut aussi avoir une signification volontaire, ou on peut aussi, cela dépend du cadre interprétatif qu'on prend, on peut aussi l'interpréter dans le cadre d'une symptomatologie d'un certain cinéma, en disant le zoom traduit telle ou telle détermination de tel ou tel cinéma. Donc, non pas dans une interprétation intentionnelle, mais dans une lecture symptomale du cinéma, si on pense qu'une telle lecture est opératoire, etc. Donc le fait que le cinéma agisse primordialement au niveau perceptif ne veut pas dire que la façon dont cette expérience est organisée par les cinéastes n'ait pas d'effet. Donc elle peut avoir des effets, même si on ne postule pas un narrateur, parce qu'elle est la même, qu'on postule le narrateur ou non, et elle peut aussi être utilisée par les cinéastes comme support pour un métamassage, et je pense qu'elle est utilisée dans la plupart, enfin, en tout cas dans les films qui sont faits des cinéastes qui sont conscients de leur propre art, le film est saturé de ces métamassages qui investissent justement l'organisation même de l'histoire du film. Simplement, dans les deux cas, on n'a pas besoin de la figure du narrateur pour expliquer ni cette efficacité, ni pour rendre compte de ces métamassages. On peut les rapporter tout simplement au cinéaste ou à l'équipe qui a fait le film. Donc, si j'ai insisté un peu longuement sur ce cas du cinéma, c'est en fait tout simplement pour qu'on puisse prendre conscience du fait que nous avons affaire là au fait qu'on raconte une histoire, qu'on peut y observer une organisation très complexe de la façon dont cette histoire est présentée, que cette organisation a des effets très importants sur la manière dont le film est reçu, que cette organisation peut elle-même devenir le support de massages et que ces massages font partie de l'œuvre au même titre que l'expérience immersive qu'on en a, ce n'est pas quelque chose qui se surajoute et qui n'aurait rien à voir avec le reste. Qu'on peut dire tout ça, mais qu'on n'a pas besoin de postuler qu'il y a un narrateur qui, en quelque sorte, ramasserait l'origine de tout ce qui se passe là. On peut tout simplement dire que c'est les cinéastes qui organisent les matériaux de telle sorte. On arrive à interpréter. Peut-être pas tout, mais à peu près tout, sauf évidemment dans les cas où il y a un narrateur. Et la question n'est pas les cas où il y a un narrateur, mais la nécessité ou non de postuler de toute façon d'entrée de jeu une telle instance ou une telle figure ou tout ce que vous voulez pour comprendre comment fonctionne un film au niveau de la réception. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de le postuler. Je ne prononce pas sur l'avantage qu'il peut y avoir à le postuler malgré tout. Parce que ça permet de manipuler plus simplement les catégories, étant donné que dans la narratologie, elles sont manipulées par rapport à cette catégorie-là. On peut partir de l'idée qui était peut-être celle de Genette, quand il parlait de principes méthodologiques, qu'après tout, c'est plus simple d'avoir une telle instance à qui tout rapporter, parce qu'on échappe alors à une toute autre question qu'on pose souvent lorsqu'on introduit l'auteur, qui est la question du rapport causal entre la vie de l'auteur et donc tout ce qui relève du biographisme. Donc, il faut peut-être aussi voir qu'une des raisons pour laquelle, méthodologiquement, on peut avoir eu envie, et peut-être qu'on a encore envie d'instituer cette coupure, c'est pour échapper à ce qu'on voit comme une sorte de biographisme. En tout cas, il me semble que, du point de vue de l'analyse narratologique, ce n'est pas indispensable, dans le cas du cinéma, en tout cas. Donc, si on vient au champ verbal, au récit verbal. C'est évidemment le champ d'origine de tous les termes que j'ai employés jusqu'ici. Alors, donc j'essaye d'ascendre du niveau le plus général au niveau le plus précis, celui qui nous intéresse. Est-ce que toute représentation verbale d'une histoire implique un narrateur? La réponse la plus générale est non, puisque j'ai déjà dit tout à l'heure qu'une représentation verbale qui se contente de dialogue, par exemple une pièce de théâtre, n'implique évidemment aucun narrateur. Je regrette cette trivialité. Bon, il faut quand même la rappeler. Donc, la question ne concerne que les représentations verbales qui empruntent la voie du récit. Donc, des représentations qui rapportent verbalement des événements non verbaux. Alors, est-ce que le fait de rapporter par un récit verbal des événements non verbaux implique toujours un narrateur qui rapporte ces événements? Je crois qu'il y a un consensus à peu près universel pour admettre que les récits factuels ont toujours un narrateur. Ceci vaut pour les narrations naturelles comme pour les récits factuels écrits, mais en même temps tout le monde admet que ce narrateur est identique à l'émetteur réel de la séquence linguistique qui encode le récit. Donc on n'a pas besoin de postuler un narrateur, sinon pour distinguer cette fonction de linguistique de d'autres fonctions que peuvent remplir les énoncés. Il me semble que la validité ou non de cette hypothèse est indépendante de la théorie qu'on peut entretenir sur la question de l'identité personnelle de l'auteur en tant qu'écrivain. Ce que je veux dire, c'est que même si on pense que parler en général, et notamment raconter, implique toujours qu'on endosse ou qu'on une posture ou un masque, ceci n'a rien à voir avec la nécessité de postuler un narrateur qui serait différent de l'auteur réel. Cela signifierait tout simplement que le sujet ne coïncide jamais avec lui-même. Ce qui n'est pas la même chose que déléguer la parole à quelqu'un d'autre ou à un double virtuel. Peut-être même au contraire, ce n'est que si on coïncide d'une certaine manière avec soi-même qu'on peut déléguer la parole à un double ou à un persona. Il me semble donc que le récit factuel ne pose pas de problème du côté de la question du narrateur. Donc, est-ce que tout récit de fiction implique un narrateur? Je crois que là aussi, tout le monde est en gros d'accord pour admettre que le récit de fiction à la première personne, qu'il soit homodiégétique ou autodiégétique, possède un narrateur et que ce narrateur doit être distingué de l'auteur. Cette distinction va en général de soi, puisque ce narrateur d'un roman homo ou autodiégétique fait partie de l'univers fictionnel créé. C'est un des personnages, même si sa fonction de personnage se réduit au fait de raconter. La situation est évidemment beaucoup plus compliquée dans le cas de l'autofiction, mais cela tient au fait que, donc, dans des cas où justement on ne sait pas si on peut, ou dans quelle mesure il faut distinguer l'énonciateur du récit du nom propre et de l'auteur, donc dans quelle mesure c'est l'auteur qui est la personne qui raconte, dans quelle mesure il y a un narrateur. Donc là, la situation est évidemment compliquée, mais elle est compliquée parce que ce type de stratégie déstabilise les frontières pragmatiques entre le fictif et le factuel. Donc l'indécision dans laquelle on se trouve quant à la distinction entre auteur et narrateur est surtout la conséquence de l'indécision quant à savoir si on se trouve dans le domaine du factuel ou dans celui du fictionnel. Ce qui est en cause, donc, ce n'est pas la question de savoir si l'autofiction a un narrateur, mais uniquement celle de savoir si ce narrateur coïncide ou non avec l'auteur. D'ailleurs, une chose qui... En fait, la question de savoir si le narrateur est distinct de l'auteur présuppose qu'on ait décidé si c'est une fiction ou non. Donc, en fait, c'est le fait de savoir si un texte est une fiction ou non qui nous permet, en deuxième moment, de dire oui, plutôt donc, le narrateur, je parle de fiction homodiégétique, hein, parce que j'ai toujours tendance à. Donc, première personne. Donc, l'auteur est différent du narrateur. Le critère, c'est donc, il faut d'abord savoir si c'est de la fiction ou non, et c'est ensuite que nous posons cette distinction pour des raisons qui tiennent à l'idée générale que nous nous faisons de la fiction, à savoir que le discours fictionnel n'est pas assumé ou n'est pas endossé par l'auteur qui écrit le texte, etc., qui c'est une feintise du geek et tout ce que vous voulez. Mais cela veut dire que ce n'est pas la distinction entre auteur et narrateur qui nous permet de savoir si un film est fictif ou non. C'est l'inverse. C'est parce que nous savons ou croyons savoir qu'il est fictif ou qu'il n'est pas fictif que nous allons dire l'auteur est le narrateur ou l'auteur n'est pas le narrateur. Donc, mais je pense que dans ce champ-là, en général, il n'y a pas non plus de désaccord très profond entre les différentes théories. Donc on se retrouve avec le champ dont j'avais parlé au début, c'est-à-dire la fiction hétérodiégétique, donc la fiction à la troisième personne. Je présenterai très brièvement les deux positions, surtout celle de la narratologie. Ce serait très bref parce qu'elle est simple à énoncer, puisqu'elle consiste à affirmer que le récit de fiction hétérodiégétique a un narrateur et que ce narrateur est en principe différent de l'auteur. Je rappelle simplement, donc elle est connue et je n'insiste pas dessus, simplement je rappelle que pendant très très longtemps, la thèse de l'existence d'un narrateur indépendant a été acceptée en l'absence de toute réflexion explicite quant à la distinction entre un récit factuel et récit de fiction, alors que de facto, on l'appliquait à des récits de fiction, en général. Et par exemple, dans le cas de la narratologie française, si mes souvenirs sont bons, c'est en fait à travers la réception de l'article de John Searle, Le statut logique du discours de la fiction, donc qui a été traduit en 82 par, donc qui est paru en 75 et qui a été traduit en 82 par Joël Proust, que la narratologie française, à partir du milieu des années 80, a commencé à aborder de front la question. C'est en tout cas à ce moment-là que Genève, par exemple, s'est intéressée à la question de la fiction et a essayé de se réinterroger sur les catégories de la narratologie en prenant en compte le fait que il y avait deux types de récits et que ces catégories avaient été élaborées dans le cadre d'un récit de fiction, d'ailleurs dans le cadre d'un récit de fiction qui, pour l'essentiel, l'exemple qui servait le plus était une fiction homodiégétique, en fait. Donc, un type spécial de fiction, un type de fiction, mais c'était une théorie du récit. Donc, ce n'est qu'après, en fait, que peu à peu, je pense que ces présupposés implicites qui étaient dans la théorie, mais qui n'étaient pas visibles à ce moment-là, parce que cela ne faisait pas partie je suppose, du contexte avant, sont devenus non seulement visibles, mais ont commencé à être problématisés et à être compris comme étant un problème. Donc l'idée de base, telle qu'elle vient de Searle, c'est que toute fiction, ou tout récit de fiction, pardon, qu'il soit hétérodiégétique ou homodiégétique, repose sur une fantaisie. Donc pour Searle, elle n'est pas la même dans les deux cas. Pour le récit à la troisième personne, d'après lui, l'auteur feint de faire des assertions véridiques, et dans le récit à la première personne, l'auteur feint d'être quelqu'un d'autre qui fait des assertions véridiques. Donc cette thèse de Searle n'affirme pas stricto sensu que toute fiction verbale, narrative, repose sur une fantaisie d'actes de langage sérieux. Cela vaut stricto sensu que pour la fiction hétérodiégétique. Pour lui, la fiction homodiégétique repose aussi sur une fantaisie, mais elle porte non pas sur l'acte narratif lui-même, mais plutôt sur l'identité du narrateur. En quelque sorte, celle de l'acte narratif n'est que la conséquence triviale du fait que, de toute façon, le narrateur lui-même est fin, n'est pas une personne réelle. Il faut ajouter que Searle, si mon souvenir est exact, ne fait aucune référence à un narrateur qui serait différent de l'auteur. Il se borne à dire que c'est l'auteur qui feint d'émettre des actes de langage sérieux et qu'à travers cette feintise, il donne naissance au monde fictionnel. Et donc, son désaccord essentiel avec Hamburger se situerait pas tant au niveau de la question du narrateur qu'au niveau de la question de feintise ou non. Bien que pour Hamburger, la question narrateur est liée à la question de la feintise, puisque ce n'est que dans un discours de feintise qu'il y a un narrateur, parce que ce n'est que ce type de discours-là qui imite un discours factuel, et qu'un discours factuel a évidemment un énonciateur, etc. Je pense que ce que Genette a ajouté en plus à cette théorie de Searle, c'est qu'évidemment, il a insisté sur le fait de la distinction entre auteur et narrateur. Donc, mais je crois que c'est à partir de là qu'on a commencé à discuter la question de est-ce qu'il y a une spécificité du récit de fiction eu égard aux catégories narratologiques. Alors, la conception concurrente, donc, je la prendrai sous la forme que lui a donnée Keith Hamburger. C'est la plus proche, je pense, des études littéraires, aussi, pour moi, peut-être la plus intéressante. Donc, elle nie que la fiction implique une fantaisie. Donc, elle s'oppose à Searle, sur ce point de vue-là, mais elle nie aussi que la fiction implique un narrateur. Donc, elle s'oppose, de ce point de vue-là, à une thèse centrale de la plupart des narratologues. Je rappelle qu'elle pose une distinction radicale entre deux types d'usages non factuels ou ludiques du langage, la fiction et la fantaisie. Et selon elle, dans le domaine verbal, seul le récit hétérodiégétique, le drame et la ballade narrative relèvent de la fiction. Mais on relève aussi, en dehors du domaine verbal, notamment le cinéma. Elle fait explicitement référence au cinéma. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai parlé du cinéma, parce que ça permet de mieux comprendre comment elle pense la fiction hétérodiégétique verbale, si on pense au fait que pour elle, le cinéma relève du même statut. Donc ça paraît sans doute aussi moins peu plausible que ça peut le paraître si on le voit uniquement à partir de la perspective de la narratologie. Donc, ramené à son noyau central, sa conception revient à affirmer que la fiction n'implique aucune fantaisie dans la mesure où elle n'imite aucun discours sérieux. Pour elle, la fiction est une sorte de structure présentatrice autonome, sans narrateur, mais avec auteur, l'auteur qui l'invente, bien sûr, et qui est construite par l'auteur à travers la construction de ce qu'elle appelle des jeux origines fictifs, qui sont en fait des points perspectiviques, des points d'origine à partir duquel le monde fictionnel est organisé, étant donné que ces points d'origine à partir duquel le monde est organisé peuvent varier et varient généralement tout au long d'un récit, passent de l'un à l'autre, s'agrandissent, se rétrécissent, etc. Et ces jeux origines fictives sont pour elle, c'est les personnages. Donc pour elle, le récit, la fiction mimétique, donc le récit de fiction au sens hétérodiégétique du terme, c'est une fiction de personnages, c'est des fictions de personnages essentiellement. La fiction homodiégétique, en revanche, relève pour elle de la fantaisie, au sens où elle pense qu'un roman à la première personne, un roman journal ou une autobiographie fictive, etc., imite des énoncés de réalité. Autrement dit, dès qu'il y a des faits de mimésis formelle, donc dès qu'on imite une forme d'un récit factuel, on se trouve dans le domaine de la fantaisie. À l'inverse, si le récit fictif hétérodiégétique ne relève pas de la fintise, il faut évidemment que tout élément de mimésis formelle, donc tout élément d'imitation de narration factuelle, en soit absent. Et je pense que c'est là un point où, par rapport à la réalité empirique des récits de fiction hétérodiégétique, il risque d'y avoir un petit problème. En tout cas, cette double contrainte explique pourquoi tous les indices linguistiques de fictionnalité qu'elle étudie et que d'autres étudient, notamment Roland Harvey et Anne Banfield, sont en même temps supposés être incompatibles avec les traits typiques des récits fins, donc avec les procédés de la mimésis formelle. Donc on pourrait extrapoler en disant que la fictionnalité d'un récit à la troisième personne est inversement proportionnelle aux traces de mimésis formelle qui s'y trouvent. Plus il y a de mimésis formelle, et plus ce type de récit s'éloigne de la fiction pure, enfin de ce type idéal de fiction telle qu'elle est définie, moins il y a de traces de mimésis formelle, et plus, en fait, ce type de fiction correspond à la définition qu'elle donne de la fiction. Bon, tout le monde, sans doute, connaît les indices, mais si vous les avez oubliés, moi je les avais oubliés en tout cas. Je rappelle brièvement les plus connus. Voilà. Donc, ce sont des indices qui, d'après elle, indiquent que nous nous trouvons dans un fonctionnement du langage qui n'imite pas le langage factuel ou ce qu'elle appelle les énoncés de vérité, mais est un usage proprement autonome de la langue qui ne se trouve que dans ce type de représentation sémiotique, en l'occurrence sémiotique verbale du monde, qu'est la fiction telle qu'elle l'a définie. Alors, premier indice, c'est l'application, c'est l'usage de verbes qui décrivent des processus intérieurs lorsque ces verbes sont rapportés ou sont appliqués à des personnes autres que l'énonciateur du récit. Donc les verbes, c'est des verbes du genre penser, réfléchir, croire, sentir, espérer, etc. D'après elle, en dehors de la fiction, ces verbes s'appliquent surtout à la première personne, puisque pour des raisons épistémiques, nous n'avons accès qu'à notre propre intériorité. Donc, si dans un texte vous trouvez beaucoup de ces verbes qui sont appliqués, un texte à la troisième personne, appliqués à des personnages, c'est un signe que vous vous trouvez dans un texte de fiction et non pas dans une biographie ou dans un texte historique, etc. Deuxième élément, c'est l'emploi du discours indirect libre et du monologue intérieur. Là encore, pour elle, on se trouve dans la même situation parce que le discours indirect libre et le monologue intérieur, sous des formes diverses, nous montrent des personnages vus de l'intérieur. Or, toujours d'après ce qu'elle pense être le principe épistémique de base des énoncés des réalités, à savoir que nous ne pouvons pas avoir accès à l'intériorité mentale d'une autre personne, de telles techniques, enfin, de tels types de discours ne peuvent pas être employés dans un discours factuel, puisque un discours factuel est censé être conforme aux règles épistémiques de ce qui est validable dans la réalité. Troisième indice, c'est l'utilisation d'anaphoriques sans antécédent. Par exemple, un récit qui commence par « il prit place » et puis « etc. » Donc, on trouve des récits d'Hemingway commencent souvent de cette façon-là. D'après elle, l'utilisation d'anaphoriques sans antécédent est possible uniquement dans le récit fictionnel parce qu'en fait, cette anaphorique fonctionne dans ce cas-là comme impliquant en fait une vision d'intérieur, donc en fait une organisation de la phrase ou de ce qui est dit par la phrase à partir de la vision de ce il. Donc on n'a pas besoin de donner un nom parce qu'en fait, ce il nous invite à nous mettre tout de suite dans la posture de cet énonciateur, personnage, quel qu'il soit. Dans un texte de non-fiction, dit-elle, il faudrait identifier d'abord le personnage, enfin la personne, avant de pouvoir continuer par il, ensuite il, etc. Un quatrième indice, c'est l'utilisation de verbes, de ce qu'elle appelle des verbes de situation. J'ai oublié le terme allemand, mais enfin ça a été traduit par verbes de situation en français. Donc des verbes comme se lever, aller, être assis, entrer, etc., dont des énoncés qui portent sur des événements qui sont très éloignés dans le temps, ou dans l'occurrence, est laissé dans une indétermination relative quant à sa temporalité. Par exemple, le début de la peau de chagrin est un exemple de cette technique. Je cite le début. Vers la fin du mois d'octobre 1829, un jeune homme entra dans le palais royal au moment où les maisons de jeu s'ouvraient. Donc, entrer est un verbe qui indique une situation spécifique. Il est rapporté à quelque chose de très éloigné dans le temps. Donc, il apporte, d'après elle, une précision qui serait difficilement compatible avec la distance qui, dans un discours factuel, sépare le moment de l'énonciation du récit de ce sur lequel il porte. C'est-à-dire, il faut s'imaginer, est-ce que dans un récit historique, un écrivain, un historien du XXe siècle pourrait dire le 29 juin, ou non, plutôt vers la fin du mois d'octobre, un tel, le jeune Louis XIV, par une belle matinée, entra dans la voie. De facto, je pense qu'il y a des historiens qui emploient des telles phrases ou des phrases du même genre. Bon. Elle dirait évidemment sans doute aussi, oui, bien sûr, mais c'est un usage qui montre tout simplement qu'il y a une contamination d'un discours à l'autre. Donc, mais ce n'est pas le lieu logique de ça, ou épistémique de ce discours-là. Un autre facteur, un autre indice, c'est l'emploi massif de dialogues, surtout lorsqu'ils sont censés avoir lieu en un moment éloigné dans le temps du moment d'énonciation du récit. Donc là encore, c'est toujours d'après le même principe. Ce ne serait pas plausible, ce ne serait pas épistémiquement, je dirais même, cela ne viendrait à l'idée en général de personne de se servir de ce type de technique en voulant raconter des événements réels qui se sont passés il y a longtemps. Là encore, il y a des contre-exemples. Évidemment, j'avais, dans Pourquoi la fiction, j'avais cité un passage de Suétone qui parle de l'empereur Domitien, de sa mort, en fait, de sa dernière nuit, où il y a à la fois des dialogues, où il y a aussi des verbes qui se réfèrent à des processus intérieurs, etc. Donc, où c'est vraiment une scène, une sorte de scène qui est comprise. Donc, je crois que je ne me rappelle plus très bien dans le livre, mais je pense que j'avais dit à l'époque, ah, donc voilà un contre-exemple. C'est vrai, c'est un contre-exemple, mais en fait, en y réfléchissant bien, ce contre-exemple prouve tout simplement ce que j'ai dû d'ailleurs dire à un autre endroit, à savoir que les techniques linguistiques et aussi les types d'énonciation, évidemment, ne sont pas pris dans des sortes de prisons respectives et qu'il n'y a pas de contact entre les deux. Il y a pour moi sans doute encore une autre raison qui est plus fondamentale et qui là me semble vraiment peut-être aboutir à peut-être à une remise en cause partielle de cette distinction qu'elle fait, mais j'y viendrai à la fin du récit. Mais en tout cas, le fait qu'on puisse trouver ça aussi dans des récits factuels, cela montre bien entendu que sa définition est une définition d'un type idéal, mais une fois qu'on a accepté ça, on peut accepter qu'il y ait aussi des phénomènes de ce type ailleurs, donc, qui ne correspondent pas à ce type idéal. Un sixième indice, c'est l'emploi des déictiques spatiaux rapportés à des tiers ou indexés à des tiers, et surtout la combinaison des déictiques temporelles avec le prétérit et le plus que parfait. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que dans le discours factuel, des déictiques spatiaux comme ici, là, etc., ne peuvent être utilisés qu'en étant rapportés à l'énonciateur. Alors que dans le récit fictionnel, ils sont souvent rapportés à la troisième personne. Par exemple, une phrase, il avança sous les arbres, deux points, ici, il faisait plus frais. Dans un récit factuel, d'après elle, on peut dire j'ai avancé sous les arbres, non, même là, on dirait là, il a fait plus frais. Enfin, on doit trouver une phrase où on peut mettre ici. Et donc pour elle, c'est ici, là, il avança sous les arbres, ici, il faisait plus frais, ne peut fonctionner que dans un discours de fiction. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ici montre la scène vue à travers le personnage, et donc on ne peut la voir à travers le personnage que lorsqu'on est dans une fiction, parce que dans le discours factuel, une telle posture est épistémiquement intenable. Voilà. De même, ce n'est que dans le discours de fiction qu'un déictique temporel tel qu'aujourd'hui peut être combiné avec le prétérit, par exemple lorsqu'on lit aujourd'hui il faisait froid, aujourd'hui il faisait plus froid qu'hier, oui. Ou hier avec le plus que parfait, hier il avait fait froid. Enfin, dernier indice, le plus massif d'après elle, qui en quelque sorte peut-être la conséquence de tous les autres, ou qui les résume tous, c'est ce qu'elle appelle la détemporalisation du prétérit. Donc, d'après Hamburger, dans un récit fictif hétérodiégétique, le prétérit, donc le fait que le récit est raconté au passé, enfin que les temps verbaux sont au passé, étaient au passé, autrefois. Ils ne sont plus nécessairement au passé aujourd'hui, mais le temps standard pendant très longtemps était des temps du passé. Donc, n'a plus comme fonction grammaticale de désigner le passé. Donc, cela ne désigne pas le fait qu'une histoire s'est passée autrefois et que quelqu'un la raconte maintenant. Mais est un signe qu'on est dans un texte de fiction. C'est-à-dire, le personnage fictif, pour elle, se constitue en jeu origine fictif, Hikatnang, donc qui en quelque sorte se présentifie ou agit devant nous. Et elle ajoute, il réduit à néant la signification imperfective des verbes qui servent à le décrire. En ce sens, le récit fictif hétérodiégétique est atemporel, en sorte que le prétérit épique, enfin ce qu'elle appelle le prétérit épique, est comme la signature de la fictionnalité dans le domaine narratif. Et notamment l'usage agrammatical des dialectiques temporelles dont j'ai parlé est pour elle un indice du fait que le prétérit ne fonctionne pas comme temps temporel, mais tout simplement comme un indice de fictionnalité. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles elle était en général de très mauvaise humeur lorsqu'elle tombait sur des récits hétérodiégétiques racontés au présent. Donc, elle avait tendance à dire, oui, ça c'est un mauvais récit. Un peu comme Dorit Cohn est très fâchée avec Hildesheim à cause de Marbotte, parce que Marbotte, c'est un récit hétérodiégétique à la troisième personne qui évite tous les indices de fictionnalité et qui est une mimésis formelle parfaite d'une biographie. Donc, et pour Dorit Cohn, elle a raison sur un certain point, il joue pas le jeu. Et effectivement, pour la plupart des premiers lecteurs, il n'a pas non plus joué le jeu, puisque la plupart des premiers lecteurs ont pensé que c'était une biographie réelle et pas une biographie fictive. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas joué le jeu, mais ne pas jouer le jeu, c'était justement son jeu. Et donc, bon. Mais cela montre que, bon, on peut penser qu'une théorie doit tout expliquer. Dans ce cas, évidemment, on peut dire qu'il y a un contre-exemple. Donc, mais si on accepte qu'une théorie. Enfin, que c'est trop demander à une théorie de tenir compte de tout, mais que si elle peut définir un prototype standard de ce qui a été pendant la plus grande partie, enfin, pendant une grande partie, en tout cas, de notre culture, produit comme récit fictif à la troisième personne, c'est déjà pas mal, et donc on n'a pas besoin d'attendre plus, du moins en l'état actuel, de la science narrative et de la science de la fiction. Donc, en tout cas, la conclusion qu'elle tire de ces considérations est que les traits énumérés contreviennent tous à des titres divers aux règles des énoncés de réalité, ou pour le dire autrement, qu'ils correspondent à des utilisations du langage qui seraient incorrectes dans le discours factuel. Donc, enfin, la fiction hétérodiégétique ne nuit pas au discours factuel, donc elle ne feint pas d'être un récit au sens technique du terme, donc elle ne feint pas d'être une histoire racontée par un narrateur, donc il n'y a pas de narrateur. C'est fondamentalement pour elle, s'il n'y a pas de narrateur, c'est parce que les propositions fictionnelles ne sont pas des énoncés au sens strict du terme. Elle dit, entre ce qui est l'objet narré et la narration, il n'y a pas un rapport relationnel, en l'occurrence énonciatif, mais une liaison de type fonctionnel. Et encore, le romancier n'est pas un sujet d'énonciation, il ne raconte pas à propos de personnes et de choses, il raconte des personnes. Donc c'est en tout cas clair comme définition de ce qu'elle entend par fiction. Comme je l'ai dit, elle en convient elle-même que les traits qu'elle met en évidence sont des indices et non pas des critères. Donc, et elle serait sans doute prête à admettre d'un côté que les récits factuels ont parfois recours à certaines de ces techniques, et à l'inverse aussi, qu'on peut avoir des récits de fiction à la troisième personne qui s'abstiennent de ces indices. Mais il est évident que, étant donné sa théorie, elle ne s'intéresse pas beaucoup ni à ce qu'on trouve dans les récits factuels qui relèvent des techniques de la fiction, ni à l'inverse, elle ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui, dans la fiction hétérodiégétique, en quelque sorte, échappe à cette définition idéale de la fiction. Donc, elle dit elle-même, d'ailleurs, je la cite, la tendance à la mimésis est l'élément principal de l'art épique et non la narration comprise comme une attitude de conscience et comme situation se prenant elle-même comme but. Donc, c'est la tendance à la mimésis, ce qui semble vouloir dire qu'en principe, la réalité textuelle est souvent, sinon en général, plus complexe. En tout cas, il me semble que sa conception met le doigt sur un point très important. Dans une fiction hétérodiégétique, en régime de focalisation interne stricte, il n'y a pas de marque sémantique qui puisse être rapportée à une figure de narrateur. Jeannette avait dit à un moment donné, en s'intéressant à la même question, il avait rappelé qu'en fait, qu'un ensemble de phrases ou une phrase en régime de focalisation interne stricte peuvent être reformulées à la première personne avec maintien de l'équivalence sémantique, donc ce qui est transmis avec ça. Donc on pourrait concevoir que les passages à focalisation interne stricte sont des sortes de séquences homodiégétiques indirectes, ou plus précisément des séquences qui relèvent non pas de l'imitation de la narration naturelle sous la forme de la substitution d'identité narrative, donc la feintise telle que l'entend Burger, mais bien sous celle de l'imitation d'états mentaux. Donc ce serait la fiction au sens limité qui est ce terme à Léon Burger, parce qu'en fait, la fiction pour elle, c'est des états mentaux et c'est le monde en tant qu'il se traduit dans des états mentaux. Parmi lesquels il y a des états perceptifs, mais pas seulement. C'est ça qui me mène en fait à mon dernier point, je pense que j'ai encore 10 minutes peut-être, qui est la question de la simulation. Donc, c'est ça aussi l'idée dont j'avais proposé au départ, qu'il fallait partir peut-être plutôt de la fiction plutôt que du récit. Et il y a des parentés très grandes entre la question de la simulation et la question de la fiction. D'une part, au niveau du développement ontogénétique, donc du développement de l'enfant, la fiction ou la possibilité de s'adonner à la fiction implique que le petit enfant accède à une compétence mentale spécifique qui est qu'il puisse interpréter des actes, ainsi entreprendre des activités de feintise ludique, mais aussi des auto-stimulations représentationnelles, mentales, qui sont enclavées. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être intégrés dans ces croyances d'arrière-fond concernant la réalité et qui ne vont pas se traduire en des actions motrices. Donc, en ce sens-là, c'est des représentations qui sont enclavées parce qu'ils sont traités autrement une fois que la représentation a été élaborée que ne peuvent l'être nos représentations rapportant à des faits, à la factualité. Et il me semble que les fictions artistiques dont on vient de parler ne sauraient exister que sur le fond de cette feintise ludique conçu en tant que compétence psychologique que le petit enfant développe au cours de sa maturation. Bon, je ne vais pas parler ici de cette compétence qui est un problème dont j'ai parlé en long et en large, et plutôt trop que pas assez ailleurs, simplement pour rappeler que le développement de cette capacité de feintise est lié directement au développement de la cognition sociale aussi du petit enfant. Et on a fait beaucoup d'études montrant que, par exemple, les enfants autistes, bien qu'ils soient capables de s'adonner à des jeux fonctionnels, à des jeux qui n'impliquent pas de feintise, accèdent beaucoup plus difficilement à la compétence des jeux de feintise. Et on a souvent, en général, même mis en relation cette difficulté-là avec leur déficit tout aussi réel. Et dans le domaine de la cognition sociale, c'est aussi des enfants qui ont beaucoup de difficultés dans la cognition sociale. Il existe aussi, ça a aussi été étudié par les psychologues, une synchronisation temporelle entre le développement des jeux de feintise ludique et l'accession à une compréhension des catégories d'intentionnalité et d'action indépendante, ce qu'en anglais on appelle independent agency, c'est-à-dire que l'enfant qui apprend que parmi tout ce qui se présente devant lui, eh bien, tout n'a pas le même statut. Parmi ces choses, il y a des choses qui bougent d'elles-mêmes, qui ont en eux-mêmes le principe de leur mouvement, qui, notamment, souvent, qui s'adressent à lui, pas nécessairement, mais qui peuvent s'adresser à lui. Donc, il apprend à faire la différence entre l'animé et l'inanimé, et le fait que ce qui est animé, en général, eh bien, ça peut entreprendre des actions de sa propre initiative. Et cela joue un rôle très, très grand dans sa conceptualisation de la réalité et aussi dans ses comportements face à des stimuli que l'enfant va reprendre. Et les jeux de feintise ludique sont un des lieux où l'enfant explore par la voie de l'immersion imaginative cette capacité de reconnaître en fait ces signes d'independent agency parmi les stimulus du monde qui l'entoure. Cela dit, les jeux de feintise ne sont eux-mêmes que la traduction par incarnation actentielle, donc par acte, du processus mental qui est celui de la simulation. Donc on peut dire que le développement de la fiction présuppose l'existence de cette capacité de simulation mentale. Donc c'est là qu'interviennent un tout petit peu les sciences cognitives. Alors, qu'est-ce que la simulation mentale? Je vais tout simplement citer un court passage de un quelques lignes d'un texte qui a été rédigé par Jérôme Dokich et Joël Proust dans Simulation and Knowledge of Action, qui est en fait un ensemble d'essais qu'ils ont collectionnés et qui traitent d'un débat en cours dans les sciences cognitives entre les gens qui pensent que le petit enfant, pour pouvoir attribuer des états intentionnels aux autres, doit disposer d'une théorie, donc doit disposer des concepts. Et une partie des gens qui pensent qu'il doit disposer des concepts pensent que ces concepts sont innés, donc qu'il y a un module inné de l'esprit où ces concepts sont encapsulés. D'autres, dont Joël Proust, mais elle n'est pas la seule, pensent que cette imputation d'intentionnalité peut se faire à travers des processus de simulation sans que l'enfant ait besoin de disposer d'une théorie de l'esprit de l'autre. Donc voilà. Donc c'est un débat qui est toujours ouvert. Je ne sais pas si va être clos un jour, mais ce n'est pas important puisque aucun des deux ne nie qu'il y ait des processus de simulation. Simplement, ce qui est en jeu, c'est est-ce que ces processus de simulation jouent le rôle central que les uns lui accordent dans l'accession de l'enfant en fait à des relations intentionnelles avec d'autres personnes ou non. Alors je cite simplement comment la simulation est définie. Donc simuler consiste à utiliser de l'information d'une façon immergée, récréative ou productive. Donc là on retrouve en fait la vieille distinction kantienne entre les deux imaginations. Par immergé, nous entendons au moins deux choses. D'abord, les représentations utilisées dans la simulation incluent des propriétés phénoménologiques et spatiales qui sont organisées du point de vue d'un sujet percevant. La simulation est intrinsèquement perspectivique. C'est exactement ce que Hamburger décrit lorsqu'elle dit que la fiction, si on interprète en termes de simulation, est organisée à partir de jeux origines, donc à partir de perspectives sur le monde. Deuxièmement, la simulation est immergée au sens où elle peut être purement pratique. Le sujet ne réfléchit pas sur les processus de simulation eux-mêmes, qui sont en général cognitivement non pénétrables. Par exemple, l'activité de rejouer sa propre expérience passée peut être mise en branle par des signaux contextuels, indépendamment des intentions du sujet, voire de manière inconsciente. Le contraste entre immersion cognitive et détachement est parfois interprété comme une distinction entre deux manières, une pratique et une théorique, de représenter la réalité. Cependant, dans des cas de simulation basique, il n'est même pas sûr qu'un niveau spécifique de contenu personnel soit impliqué. La simulation, conçue comme la capacité pratique d'anticiper des comportements, implique peut-être des processus essentiellement subpersonnels, donc qui ne relèvent pas des processus cognitifs attentionnels, sur lesquels nous pouvons faire retour, éventuellement pour les corriger consciemment, etc. Tel est aussi le cas des phénomènes de résonance qu'on a pu observer dans les cerveaux de gens observant une action exécutée par quelqu'un d'autre, ou dans le cas d'une personne regardant quelqu'un qui souffre physiquement. C'est-à-dire ces phénomènes de résonance se déclenchent sans que la personne décide intentionnellement que de tels phénomènes de résonance, qu'elle veut s'immerger dans ou s'identifier à la personne qui est en face de lui, qui a tel ou tel, qui manifeste tel ou tel stimuli qui chez lui met en branle cette réaction subpersonnelle. Alors, les deux auteurs ajoutent que la simulation mentale remplit de multiples fonctions et existe sous de multiples formes qu'on ne saurait réduire les unes aux autres sans autre forme de procès. Je cite encore deux phrases. Un sujet qui s'engage dans une simulation peut rejouer sa propre expérience passée de manière directe et entière afin d'en extraire des propriétés informationnelles agréables, motivationnelles ou strictement informationnelles. Des activités simulatrices comme s'engager dans une imagerie perceptuelle, activer la mémoire épisodique, s'entraîner mentalement à une discipline sportive exemplifie ce type de fonction. D'un autre côté, la simulation peut aussi être utilisée dans une visée plus innovative et permettre une nouvelle combinaison des traits expérimentés. C'est le cas lorsque la simulation prépare une prise de décision, lorsqu'elle est utilisée dans des jeux de fantaisie, en fiction et dans la compréhension d'autrui. Donc, il existe différents types ou différentes modalités de simulation mentale Et elle peut prendre différentes formes, simulation de croyances, simulation de percepts, simulation de désirs, simulation d'imagerie motrice, etc. Donc la fiction elle-même ne peut donc pas non plus être tout simplement réduite au processus général de simulation mentale. D'abord, je pense qu'il est vrai que toute fiction se réalise à travers des processus de simulation. L'inverse n'est pas vrai. Toute simulation ne relève pas de la fiction. Ceux parmi vous qui ont peut-être lu un peu dans ce domaine se rappelleront sans doute que les théories de la simulation mentale ont été développées à l'origine justement pour rendre compte, ce dont j'ai parlé là il y a un moment, ce qu'on appelle le mind reading, donc la capacité de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de savoir ce qu'il pense, ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire, etc. Donc, dans le mind reading, la simulation est évidemment contrainte véridictionnellement. Il importe à la fois que celui dont je simule les réactions existe réellement et qu'il ait l'identité que je suppose qu'il a. Il vaut mieux pas me tromper. Et il faut aussi que ma simulation reproduise de manière fiable ses états intentionnels. Et ceci ne vaut pas seulement pour les simulations prédictives dans lesquelles j'essaye de prédire ce qu'un autre va faire, mais même, on peut penser à une discipline savante comme l'histoire, mais même dans la vie de tous les jours, dans les rétrodictions, c'est-à-dire dans la manière, lorsque je veux reconstruire ce qu'a pu penser quelqu'un à un certain moment, ce qui a pu l'amener à prendre telle ou telle décision, dont par ailleurs nous connaissons la traduction en action. Il n'en va pas de même dans la simulation fictionnelle. D'abord, elle porte en général sur des actants inventés par le processus de simulation lui-même. Et elle ne peut pas non plus être validée ou invalidée de manière directe, c'est-à-dire par une comparaison entre les comportements prédits par la simulation et les comportements affectifs. En deuxième lieu, les fictions artistiques ne sauraient être réduites à une simulation mentale. Ce qui est en cause n'est pas seulement la mentalité, parce qu'une fiction artistique s'incarne toujours dans un support sémiotique. Ce n'est pas quelque chose qui se passe que dans la tête. Et c'est le support sémiotique grâce auquel elle va pouvoir être réactivée par d'autres personnes. En dehors de ce support sémiotique, elle n'aurait pas d'existence comme œuvre, ni comme artefact, et donc ni comme fiction au sens culturel du terme. Donc, le créateur ne se borne certainement pas à simuler mentalement des œuvres d'origine fictive, mais il doit traduire cette simulation en des signes publics susceptibles d'induire chez le récepteur une simulation du même type. Donc, accepter que la fiction a un lien très étroit avec la simulation ne revient pas à pouvoir faire l'épargne de toutes les théories qui ont été développées portant sur la mise en œuvre de la fiction, qu'il s'agisse des analyses narratologiques, de l'analyse de la rhétorique, de l'analyse thématique, de tous les types d'analyses qui partent justement de ce support sémiotique. Simplement, je pense que ça permet de le mettre en perspective. Par ailleurs, et c'est peut-être le point le plus important, ce qui caractérise, enfin, du moins c'est mon hypothèse, l'usage fictionnel des supports sémiotiques, c'est que lorsqu'ils sont utilisés fictionnellement, ces supports eux-mêmes ont une fonction simulationniste. C'est-à-dire, dans les fictions publiquement réalisées, dans des œuvres, enfin, dans les artefacts, la notion de simulation est pertinente non seulement pour expliquer la situation dans laquelle se trouve le créateur au moment où il invente la fiction, ou le récepteur au moment où il la réactive, mais aussi pour décrire la fonction des dispositifs eux-mêmes. Ce sont des dispositifs de simulation. Or, cette dimension simulationniste des dispositifs ne relève pas de la simulation d'états mentaux, mais de la simulation de vecteurs informationnels. Par exemple, pour en rester au cas non, où il n'y a pas de débat, le cas de la fiction homodiégétique, la fiction homodiégétique s'incarne sous forme d'un récit homodiégétique qui, en tant que récit, a un statut de simulation. Il imite un autre type de récit. Donc il y a une composante simulatrice qui est dans l'usage du statut lui-même. Donc ce qui est en cause n'est pas seulement une simulation mentale, mais la capacité ou non de produire un artefact qui lui-même est une simulation ou est un leurre. C'est un peu comme si vous voulez tromper quelqu'un, il ne suffit pas de réussir dans votre tête à penser les deux choses, celles que vous voulez lui faire croire et celles que vous croyez vraiment, mais il faut aussi que vous réussissiez effectivement à à dire la chose qui va l'amener à croire ce que vous voulez qu'il croit et ce que vous savez qui est faux. Donc il faut bien que vous trouviez une incarnation qui permette de traduire et de réaliser cette intention que vous avez. Donc je crois qu'il faut une analyse de la composante simulatrice des supports sémiotiques dont la fiction se sert comme amorce mimétique, c'est-à-dire comme facteurs qui sont susceptibles d'induire chez les récepteurs l'attitude de simulation mentale qu'on veut qu'il adopte. Et je pense que c'est en cela explique peut-être pourquoi. Bon, j'avais des choses plus, mais je vais m'arrêter là. Pourquoi, simplement un mot, pourquoi la théorie de la simulation permet d'éviter peut-être un des aspects problématiques de la théorie de Hamburger, c'est que Hamburger s'intéresse au contenu des fictions. Or, si on se place dans le cadre de la théorie simulationniste, il ne suffit pas d'avoir des contenus, il faut avoir aussi des enclencheurs d'attitude. Il faut des déclencheurs qui nous mettent dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, en l'occurrence la situation d'immersion mimétique. Donc, il se pourrait très très bien que, y compris dans une fiction hétérodiégétique, il y ait une nécessité, dans des degrés divers, de telles amorces mimétiques. Dans ce cas, cela expliquerait pourquoi, dans la plupart des fictions hétérodiégétiques, vous avez à la fois ce qui relève de la simulation d'états mentaux ou de jeux origine fictive, donc tout ce qui est décrit par la théorie d'Hamburger, mais pourquoi, en même temps, dans la plupart des cas affectivement réalisés de fiction hétérodiégétique, il vous reste aussi des éléments partiels de mimesis, parce que c'est très rare que vous puissiez réduire l'ensemble d'une fiction hétérodiégétique à une focalisation interne systématique. C'est réalisable, mais la règle générale n'est pas cet état-là, mais est un état de composite et de transformation. Donc, on peut interpréter cela soit en disant que, eh bien, il y a deux théories qui entrent en conflit, soit on peut dire, eh bien, il y a peut-être deux éléments qui n'ont pas la même fonction. La fonction proprement fictionnelle est celle qui peut être décrite en termes hamburgériens, mais ce qui nous permet d'entrer dans cette situation, eh bien, c'est ce qui relève de vieilles techniques humaines qui consistent en la production de ces leurres, enfin, leurres entre guillemets, de ces amorces mimétiques qui nous facilitent l'entrée dans cette attitude de simulation qui nous est demandée pour que nous puissions entrer dans l'univers fictionnel qui a été créé. Et il me semble que les indices de fictionnalité qu'elle a indiqués sont sans doute les lieux où se manifeste le plus clairement cette autonomie de la logique proprement fictionnelle, en même temps que il garde, enfin, ces indices du fait de leur embeddedness, du fait qu'ils sont plongés dans un récit global qui n'est pas entièrement, en général, dans cette perspective-là, explique l'importance, en tout cas, dans l'induction de l'attitude mimétique, de la présence d'amorces mimétiques. Voilà, là, je termine tout ça en queue de poisson. J'avais terminé. Prévu de terminer de manière un peu plus précise sur les indices de fictionnalité et aussi sur la question, je laisse tomber, de la possibilité d'interpréter les phrases en focalisation interne stricte en termes de phrases homodiégétiques internes. Il me semble que tout cela est lié à cette dualité de fonctionnement en fait, du langage dans la fiction hétérodiégétique, à la fois. Ce que Hamburger a identifié comme le statut proprement fictionnel, et puis le fait que, eh bien, cet usage proprement fictionnel se situe dans un domaine beaucoup plus vaste, qui est celui d'amorces mimétiques qui induisent cet état-là, qui peuvent l'induire. Voilà. Bon, désolé pour cette conclusion qui n'en est pas une. Et merci.